Jean-Marie Pelt, botaniste, et Pierre Rabhi, agroécologue, deux infatigables briscards en quête de sens du monde.
Ils se connaissent depuis longtemps et se battent depuis tout aussi longtemps. À 83 ans pour Jean-Marie Pelt, chercheur botaniste, et 78 pour Pierre Rabhi, un des paysans pionniers de l'agroécologie, pas question de profiter de la retraite en lisant confortablement un bon polar. C'est eux qui le disent avec humour et délectation lors de la conférence de presse préambule à leur intervention devant 1500 personnes réunies en août dernier au Centre Astro de Saint-Michel-l'Observatoire. Une conférence à deux voix imaginée par Philippe Courbon, fondateur du cabinet IDE, et éducateur en santé, nutritionniste et humaniste lui aussi. Deux voix qui continuent infatigablement de se mobiliser, de s'interroger, d'ouvrir les consciences, deux voix qui ont écrit à quatre mains ce livre « Le monde a-t-il un sens ?» Deux voix pour une question complexe, universelle, intemporelle et surtout humaniste. Puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, d'humanité et disons-le franchement, de sa survie. Et pour les deux amis, l'une des pistes à développer est celle de la coopération, de l'associativité telle qu'elle existe dans le vivant que nous avons, nous, humains, rompus. Et pour cause, aujourd'hui, les rapports sont régis par la dualité, la compétition, et ce, dès l'école où l'on est mis en concurrence. Comment alors se rendre compte que c'est ensemble, et pas contre, que toutes les espèces ont pu évoluer. Je vous propose d'écouter ces deux sages, plus réalistes qu'optimistes, mais plus actifs que passifs, qui poussent à agir et réagir. A-t-il un sens ? C'est à une question profondément existentielle et complexe à laquelle vous tâchez de répondre dans ce livre à quatre mains, Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt. Alors, qui a eu l'idée de ce projet un peu fou et de cette question complexe ?
Avec Pierre, nous convergeons. Nous convergeons sur une idée forte, c'est que l'univers, la vie humaine et la vie biologique aussi, ça n'est pas seulement... la lutte, la compétition, l'affrontement, les guerres, c'est aussi la coopération. C'est peut-être l'honneur de la science écologique de montrer aujourd'hui que la coopération joue dans toute l'histoire de la vie un rôle très important. Et malheureusement, dans notre société, elle ne joue pas encore le rôle très important que nous souhaitons. Et c'est la raison pour laquelle... je crois que nous avons fait ce bouquin tous les deux sur cette thèse-là. Et comme moi, j'avais réfléchi sur ce que j'ai appelé l'associativité, nous avons absolument convergé sur cette idée-là. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a du neuf dans ce domaine. Je vais prendre un seul exemple. Il y a une goélette qui s'appelle Tara, qui a circulé sur tous les océans depuis en gros 4 ans. Ils ont complètement révolutionné la connaissance qu'on a du plancton et ils ont montré, et c'était leur idée force à la fin de leur travail, que les symbioses et les coopérations dans le monde du plancton étaient absolument inattendues et considérables. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et nous souhaitons aller dans ce sens-là et c'est ça le sens que nous voyons effectivement quand on pose la question tous les deux, le monde a-t-il un sens ? C'est dans ce sens-là que ça va.
Vous êtes d'accord avec cette réponse, Pierre Rabhi ?
Oui, bien entendu, les bases, disons, de la vie telle qu'elle s'est organisée, seulement après, il y a le phénomène humain. C'est-à-dire que l'être humain, il a malheureusement rompu cette associativité pour rentrer la dualité. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à écouter ce qui se passe dans le monde pour se rendre compte que la dualité est toujours là. Quand on traverse l'histoire, qu'on essaie de faire une rétrospective sur l'histoire, l'humanité s'est toujours battue, toujours les dominants, les dominés, chez les dominés, on trouve encore des dominants, il y a eu de l'esclavage, il y a eu des répressions, il y a eu des meurtres, il y a eu tout ce qu'on veut. Moi, quand je me pose le sens, c'est pas le sens de la planète qui n'a pas eu besoin de nous. Je veux dire, elle s'est organisée et nous sommes là depuis à peu près une minute et demie sur 24 heures. C'est ce qu'on dit, les ratios qu'on dit. Donc jusque-là, la planète n'a pas eu besoin de nous. Elle pouvait parfaitement continuer. Et à ce moment-là, arrive un être humain qui, lui, a peur. Il est duel. Il est constamment en position pour des croyances, pour des idées, pour des idéologies, pour toutes sortes de choses. Et le monde est convulsé par une humanité qui, malheureusement, est très, très violente Et du coup, aujourd'hui, on voit bien que l'hommage à la mort est beaucoup plus important que l'hommage à la vie, puisque les dépenses militaires, par exemple, constituent aujourd'hui des budgets qui sont absolument considérables. Et moi, j'aurais souhaité qu'on me donne seulement 1% de ce budget pour essayer de mobiliser des paysans, de planter des arbres, de lutter contre l'érosion. C'est ce que je fais à la petite échelle, et le développer, etc.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18.
Je pense que l'humanité a besoin... Comment se fait-il qu'elle se fasse autant souffrir? Comment se fait-il qu'elle tue et qu'elle dégrade ce à quoi elle doit la vie? Grande question. Alors, le sens du monde, est-ce qu'il est donné par simplement l'organisation de la vie telle qu'elle s'est faite? Mais le sens que lui donne l'être humain, il est complètement divergent. Chacun a son point de vue sur cela. Je pense que l'être humain est quelqu'un qui a peur. Nous sommes enfants, nous grandissons, puis à un moment, nous apprenons que nous ne sommes là que provisoires et que la mort nous attend quoi qu'on fasse. On peut même pas négocier avec elle, même avec des milliards, on peut pas changer l'ordre des choses. Et je pense que cette peur de la mort a suscité le besoin de sécurité, et le besoin de sécurité a divisé l'humanité. Pourquoi y a-t-il tant de religions qui s'opposent les unes aux autres? Pourquoi fabriquer des armes pour s'entretuer? Pourquoi des nations circonscrites et chaque nation opposée à l'autre nation? Donc je pense que l'être humain a à se réformer, même dans nos pratiques au quotidien. Je peux parfaitement aller manifester contre les multinationales et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui m'entourent. Je veux dire, c'est pas... Et chez les opprimés, on retrouve des oppresseurs, etc., etc. Donc il y a nécessité aujourd'hui d'un changement humain radical et profond, sans lequel je pense pas que l'humanité puisse s'en sortir.
Comment se fait-ce que l'humain a préféré la dualité, la compétition, la confrontation plutôt que l'associativité qu'on retrouve dans la nature?
C'est le problème métaphysique du mal. Le mal, c'est quelque chose qui existe. Nous n'avons pas développé d'autres potentialités qui sont, par exemple, la potentialité de l'altruisme qui existe et qui existe chez les animaux, chez les oiseaux en particulier et bien ailleurs. Mathieu Ricard a fait un bouquin absolument remarquable sur l'altruisme. Nous n'avons pas développé ça. Nous n'avons pas développé ça parce que nous sommes très très tentés par le pouvoir. Le pouvoir, c'est le plus important. C'est ce qui fait que les uns écrasent les autres et qui s'organisent des hiérarchies qui sont liées à des intérêts. Alors c'est tout ça qu'il faut dépasser. Alors le but des religions, c'était de le dépasser. Mais elles se sont elles-mêmes, entre guillemets, humanisées. C'est-à-dire qu'elles ont attrapé les maladies des autres, parce que ces maladies sont contagieuses dans l'humanité. Et ça dure depuis très longtemps. Dans un journal que j'ai lu cet après-midi, on dit qu'on a découvert un charnier vieux de 7000 ans, où les squelettes étaient des gens qui avaient été torturés. Donc ça remonte à très loin. Et c'est une vraie révolution que nous devons réussir, et une vraie conversion. Et c'est à ça qu'on s'emploie, aussi bien Pierre que moi.
Regardez comment on éduque les enfants. C'est-à-dire que ça commence par être soit le meilleur, soit le système de notation. C'est-à-dire où finalement cette compétition angoisse l'enfant et le prépare à être compétitif tout le restant. Et l'humanité entièrement dans cette compétitivité, alors que dès l'éducation, si on partait sur au contraire la coopération entre les enfants, la solidarité, l'altruisme, appelons ça comme on voudra, il y a aussi l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, homme-femme, qui doit être un problème à résoudre, vous voyez. Et je pense que ça, c'est très important.
Malgré cette vision assez noire, et ce sera ma dernière question, de l'humanité, puisque finalement, on comprend dans votre propos que intrinsèquement, ça vient de l'humain lui-même, le problème du pouvoir, etc. Est-ce que vous restez quand même des optimistes?
Ah, Quelle belle question. Disons d'abord que nous sommes nécessairement réalistes, que deuxièmement, nous sommes volontaristes, et que troisièmement, cet effort de volontarisme va dans le sens qu'on vient de développer. Alors, ceci dit, on fait notre part. Il a raison, Pierre, de parler du colibri qui fait sa part. Nous ne savons pas quels seront les fruits de nos efforts, mais nous savons que ces efforts, il faut les faire. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de vous parler maintenant, je ne lis pas un polar. Je le disais tout à l'heure, vous l'avez entendu. Mais c'est ça. Si vous êtes pessimiste, vous restez à la maison et vous avez une retraite heureuse. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Qu'est-ce qu'on s'ennuierait tous les deux ?
Ouais. Il y a Bernanos qui disait que l'optimiste était un imbécile heureux et le pessimiste un imbécile triste. Moi, je ne pense pas être ni optimiste ni pessimiste. Soit l'humanité devient intelligente parce qu'elle ne l'est pas. Ce qu'on appelle l'intelligence, on a confondu nos aptitudes qui sont énormes. On peut faire des miracles technologiques, etc., etc., avec l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas une question de cerveau perfectionné, capable de faire. C'est la lumière, c'est-à-dire la lucidité. Et cette lucidité, je ne pense pas qu'elle soit de nature humaine. Elle est transcendante. Et quand je vois une graine intelligente, je la mets en terre et elle est intelligente. Je la mets dans la terre et elle se débrouille, elle fait ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il y a une intelligence transcendante de laquelle nous sommes éloignés. Et pour moi, c'est ça le divin, c'est-à-dire retourner à cette intelligence qui est de l'ordre du divin. Je ne parle pas de Dieu parce qu'il ne faut pas le personnaliser, sinon c'est encore la bagarre. Voilà. Donc je pense que l'intelligence n'est pas humaine, et c'est simplement on s'ouvre à elle ou on se ferme à elle. On se ferme à l'intelligence, on sera détruit, on se détruira. On s'ouvre à l'intelligence, on survivra.
Va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau.